SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 19 septembre. Après les attaques de drones ce week-end contre deux installations pétrolières majeures en Arabie Saoudite, Riyad accuse l'Iran d'être à l'origine de cet assaut. En Europe, à Rome plus précisément, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Giuseppe Conte se sont mis d'accord sur un système de répartition des migrants. Et l'Australie, elle, n'aura pas le droit de s'exprimer lors du sommet des Nations Unies sur le climat en raison de son trop faible engagement pour lutter contre le changement climatique. Moins d'une semaine après les attaques aux drones qui ont visé des installations pétrolières stratégiques en Arabie Saoudite, la tension monte au Proche-Orient. Le ministre de la Défense saoudien accuse l'Iran d'être à l'origine de ces attaques, ce que nie en bloc bien sûr le pouvoir à Téhéran. Mais l'Arabie Saoudite assure détenir des preuves tangibles de l'implication de l'Iran dans cet assaut qui a provoqué une baisse de 50% de la production de pétrole du pays qui en est le premier exportateur mondial. Les explications de Sami Boukhelifa de RFI.
L'enquête saoudienne aura duré moins de 4 jours. Ce mercredi, le porte-parole du ministère saoudien de la Défense convoque une conférence de presse. Tout est préparé minutieusement. Turki al-Maliki s'exprime alors au milieu de débris de drones et de missiles. Ces restes récupérés sur les théâtres des frappes qui ont visé les deux installations pétrolières saoudiennes samedi sont présentés comme des preuves irréfutables de l'implication de l'Iran. Même si les radars saoudiens n'ont rien détecté le jour de l'attaque, Riyad semble désormais catégorique. Drones et missiles ennemis sont entrés dans son espace aérien par le nord. À travers cette déclaration, le royaume saoudien dément ainsi la version des Houthis. Ces rebelles chiites yéménites proches de l'Iran qui ont revendiqué l'attaque cherchaient vraisemblablement à faire diversion selon Riyad. Les Saoudiens souhaitent désormais porter l'affaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des experts de l'ONU vont mener leur propre enquête sur le terrain en Arabie Saoudite.
Et on prend maintenant la direction de Rome en Italie où le président français Emmanuel Macron a rencontré le premier ministre italien Giuseppe Conte. Au menu de cette rencontre, la question épineuse en Europe des migrants et les deux dirigeants sont parvenus à un accord sur la mise au point d'un système de répartition de ces migrants justement entre tous les pays de l'Union européenne. On écoute un extrait de l'allocution d'Emmanuel Macron sur le sujet, allocution enregistrée par RFI.
Je crois très profondément, comme vous l'avez dit, que la réponse au sujet migratoire n'est pas dans le repli, la provocation nationaliste, mais la construction de solutions et de coopération européenne réelle et efficace. Notre approche, elle doit répondre à trois exigences. La première, c'est une exigence d'humanité. On ne peut résoudre ce conflit en le faisant aux dépens des vies humaines ou en acceptant des personnes bloquées en mer, ou des scènes de noyade que nous avons trop souvent vécues. La deuxième, c'est la solidarité. Je l'ai dit, l'Union européenne n'a pas fait suffisamment preuve de solidarité avec les pays de première arrivée, notamment l'Italie. Et la France est prête à évoluer sur ce point dans le cadre de la remise à plat des accords de Dublin. Et puis le troisième principe, c'est celui d'efficacité. S'agissant des sauvetages en mer et des débarquements, je suis convaincu que nous pouvons nous mettre d'accord sur un mécanisme européen automatique de répartition de l'accueil des migrants, coordonné par la Commission européenne, qui permet de garantir à l'Italie ou à Malte, avant une arrivée, que ses partenaires prendront en charge rapidement toutes les personnes débarquées et avoir une organisation beaucoup plus solidaire et efficace, comme je viens de le dire, plus largement.
Et on traverse maintenant l'Atlantique, puisque deux semaines après le passage de l'ouragan Dorian sur les Bahamas, les dégâts là-bas restent immenses. Pour l'heure, le bilan reste fixe à 52 victimes, mais il est encore bien trop tôt pour entamer la reconstruction. C'est encore malheureusement le temps de l'urgence. C'est un sujet que connaît très bien John Dixa. Il est le président de l'association SOS Attitude, qui est justement spécialisée dans le déploiement d'abris d'urgence dans ce genre de situation. RFI l'a interrogé à son retour des Bahamas. On l'écoute décrire ce qu'il a vu sur place.
Sur les deux îles, Abaco et Grand Bahamas, l'île la plus touchée, c'est manifestement Abaco. Quand on survole Nassau, c'est effectivement vert, c'est très beau. Quand on survole Abaco, c'est marron, c'est noir, il n'y a plus de végétation. Il y a énormément de destruction. Chaque maison quasiment touchée soit partiellement détruite, soit totalement, 10 jours après le passage de l'ouragan. Donc on a trouvé des familles qui revenaient sur site pour essayer de déblayer ce qu'ils pouvaient déblayer, récupérer des affaires qu'ils pouvaient récupérer. Et donc notre plan d'action là, c'est de fournir des abris d'urgence. C'est une grosse tente qui fait 4 mètres par 4 mètres par 2 mètres 50 de haut. Et donc la plupart des gens et des familles vont rester dans des tentes que l'on a plantées près des maisons détruites pour commencer le déblaiement, le nettoyage, parce que ça c'est la première chose à faire. La reconstruction, aucune chance de le faire tant qu'on n'a pas tout nettoyé. C'est pas l'ouragan en lui-même qui a provoqué le plus de dégâts, mais c'était effectivement les eaux qui ont suivi, qui étaient jusqu'à 2 mètres de hauteur dans les maisons.
Et quelques mots sur l'Australie maintenant pour dire qu'elle a été mise au ban par les Nations Unies. Comme vous le savez, la semaine prochaine aura lieu à New York un sommet mondial sur le climat. Et l'Australie fait partie des quelques pays qui restent ouvertement favorables à l'exploitation du charbon. Et à ce titre, elle n'aura donc pas le droit de s'exprimer lors de ce sommet organisé sous l'égide de l'ONU. Alors, ça n'est en fait pas vraiment une surprise puisque Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait déjà annoncé que seuls les dirigeants des pays qui sont véritablement engagés pour lutter contre le réchauffement climatique, excusez-moi, auront le droit de s'exprimer. L'Australie n'aura donc pas son mot à dire, ce qui est également le cas du Japon, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, du Brésil et de l'Arabie Saoudite. Mais alors que veut dire l'ONU quand elle parle d'engagement résolu pour la lutte contre le changement climatique? Eh bien, d'après la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, cela signifie s'engager à avoir un bilan carbone neutre d'ici à 2050. On l'écoute.
We need that ambition because the report with countries' existing climate plans, greenhouse gas will rise above 10.7% above 2016 levels by 2030. And that number is really starkly at odds with the UN Secretary General's call for deep cuts. So we have to dig deeper. We have to do so much more.
Et on suppose que cette décision de l'ONU de priver l'Australie du droit de s'exprimer lors de ce sommet n'a pas beaucoup plu au Premier ministre Scott Morrison, qui a annoncé qu'il ne se rendrait pas à ce sommet. Néanmoins, l'Australie sera tout de même représentée puisqu'il va y envoyer sa ministre des Affaires étrangères, Maryse Payne. Néanmoins, cette décision de Scott Morrison suscite quelques réactions dans la sphère politique australienne, notamment dans les rangs de l'opposition. Le député des Greens, Adam Bent, estime que la décision de Scott Morrison de ne pas aller à ce sommet envoie un très mauvais signal au reste du monde.
How can we ask other countries to start cutting their pollution when we're lifting ours and wanting to build new coal mines? The rest of the world is calling us out. Scott Morrison is guilty of contempt and cowardice for failing to front up at the International Climate Summit.
Et puis, il n'y a pas que la position de l'Australie vis-à-vis de la protection de l'environnement qui pose problème aux Nations Unies. L'organisation internationale s'interroge aussi sur le traitement que l'Australie réserve à ses populations indigènes. Et sur ce point, c'est le ministre des Affaires indigènes, justement, Ken Wyatt, qui a pris la parole devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans les grandes lignes, il a assuré que l'Australie faisait des efforts pour appliquer dans son intégralité la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples indigènes. On écoute un extrait de son intervention.
It requires us to solve the problem together, to co-design. Soon we'll be talking to our elders and communities about what co-design looks like. The truth is we have problems and some are serious problems. High rates of incarceration of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians. High rates of suicide, particularly of young Indigenous Australians, are just two of these problems. But we are working to change the statistics.
Allez, un mot rapide de sport maintenant, puisque hier soir en Europe se sont joués plusieurs matchs de la Ligue des Champions. Une très belle soirée en particulier pour le Paris Saint-Germain qui l'a emporté à domicile sur le score de 3-0 face au Real Madrid. Et ce, malgré l'absence de ses attaquants vedettes. Kylian Mbappé et Edinson Cavani sont blessés et Neymar, lui, est toujours sous le coup d'une suspension. Mais les Parisiens ont délivré un match très solide avec notamment un doublé de l'Argentin Angel Di Maria et un but en toute fin de rencontre du Belge Thomas Meunier. Mais pour Thiago Silva, le capitaine brésilien de cette équipe parisienne, cette victoire n'est pas due à la performance de quelques-uns. Elle est à mettre au crédit de toute l'équipe, ceux qui étaient sur le terrain hier soir, mais aussi ceux qui étaient sur le banc. On l'écoute, il était en conférence de presse après le match.
On a très bien maîtrisé le match. a très bien préparé son match là. On était efficace, on était solide. C'est ça qu'il faut le faire. Même dans le championnat, on doit jouer comme aujourd'hui, avec des caractères, avec des personnalités, agressives le moment juste de faire des appels. Je dois féliciter surtout à le staff technique qui a très bien préparé son match là. Tout ce qu'ils ont passé, nous ont donné, on a fait aujourd'hui, on a réussi à faire bien. Et c'est pour ça qu'on a mérité de gagner 3-0. Un groupe solide, un groupe fort, ça fait 25 joueurs. C'est pas seulement 11. Aujourd'hui, malheureusement, Dou, il était blessé et il est suspendu. Mais la démonstration des autres qui sont rentrés, c'était magnifique aussi.
Et le prochain match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, ce sera le 1er octobre en Turquie face au club de Galatasaray. Et puis bon, on fera un résumé des autres rencontres de la soirée d'ici quelques minutes dans le magazine des sports avec Christophe Mallet. Nous, maintenant, on va faire un petit point sur la météo de ce jeudi. Encore et toujours de la pluie à Sydney, bien que maintenant il y ait une petite accalmie, mais ça fait quand même 4 jours que ça dure et franchement ça commence à bien faire. Mais bon, au moins il fait 21 degrés. À Melbourne, il fait beau et il fait 23 degrés. Quelques averses à Perth pour 16 degrés. Beaucoup de vent à Adélaïde, mais le thermomètre va grimper jusqu'à 30 degrés aujourd'hui. 25 degrés à Brisbane, où il n'est pas exclu qu'il pleuve au cours de la journée. Des nuages dans le ciel de Cairns, où il fait 29 degrés. Et grand soleil à Darwin, où la température atteint 33 degrés.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.